Je faisais des études de physique-chimie à Sciences et j'y allais souvent avec une amie à la cité universitaire, au Thé Dansant. Et puis un jour, sa sœur lui a dit, ben, viens danser avec moi à la cité universitaire. Et c'est là que j'ai rencontré Jacques pour la première fois. Il m'a invité à danser, nous avons dansé, puis voilà, on a fait connaissance de cette façon.
Et vous aviez quel âge à cette époque-là?
J'avais 21 ans, 22 ans.
Et Jacques, avait quel âge?
Il avait 4 ans de moins que moi.
Ah, il était tout jeune.
Oui, il était tout jeune.
Avec cette entrevue, nous revenons plusieurs décennies en arrière, au milieu des années 50 à Paris. Jacques Mérine y rencontre Lydie de Souza, qui est étudiante.
À peu près 4 mois, 5 mois après, il m'a demandé un mariage.
C'est extrêmement rapide, ça,
hein? Ça a été rapide, oui.
Et vous, vous avez accepté?
Et j'ai accepté. Parce qu'il était vraiment adorable. C'était un garçon très bien.
Jacques a 18 ans et Lydie devient sa première femme. C'était il y a plus de 60 ans et la femme avec laquelle je parle aujourd'hui a 90 ans passés. Je veux essayer de bien comprendre comment ce portrait d'un garçon très bien que me décrit sa première épouse est-il conciliable avec celui qui, quelques décennies plus tard, deviendra l'un des criminels les plus recherchés du Canada, puis de France. Je veux aussi essayer de démêler le vrai du faux, car le parcours de Mérine comporte souvent plusieurs versions d'un même événement. Et contrairement à ce que Mérine écrira plus tard dans son autobiographie « L'instinct de mort », la réalité semble bien moins glamour et héroïque que le mythe populaire. Mon nom est Stéphane Berthomé et vous écoutez Mérine, l'orgueil et le sang. Troisième épisode, de Jacques à Mérine.
J'aimerais qu'on essaye de prendre ça par le commencement. Tu nous racontes un peu ce que toi t'as appris de significatif sur sa jeunesse.
Alors Jacques Mérine, il est né dans un milieu plutôt aisé, hein, bourgeois. Son père était quand même le roi de la dentelle de luxe sur la place de Paris. Il fournissait en dentelle les grandes marques de haute couture et puis des artistes très en vue également pour des spectacles.
Philippe Roizet, c'est un auteur et documentariste qui a écrit en 2009 un livre intitulé « Mérine, fragment d'un mythe ».
Mais en même temps, c'est une famille où il n'y a pas de signe extérieur de richesse. Les parents, deux enfants, tout ça dans un deux pièces à Clichy. Bon, une maison résidence secondaire à Louviers, mais on imagine qu'à l'époque, les prix de l'immobilier dans une ville comme Louviers, ça ne doit pas être extraordinaire.
Jacques Mérine a grandi dans une banlieue de Paris plutôt tranquille. Sa famille possède un commerce de broderie créé en 1936 par le père, André.
Je crois qu'une des clés de compréhension de Jacques Mérine, c'est quand même l'absence notoire de son père. C'est quelqu'un de discret, quelqu'un qui parle peu, et puis il y a cette rupture essentielle qui est la guerre, la Seconde Guerre mondiale, l'occupation. Le père est mobilisé, et puis il est fait prisonnier par les Allemands, il reste longtemps en détention, il rentre qu'à la fin de la guerre.
André ne reviendra qu'en 1945, et durant la longue période où la France est occupée par les nazis, Jacques sera confié aux bons soins de la famille qui vit à la campagne. Cette absence du père a dû peser lourd dans le développement du jeune Jacques Mérine. C'est en tout cas ce que pense Philippe Roizet.
Je suis absolument persuadé, ça m'a été confirmé par des gens qui étaient proches de la famille quand il était enfant et adolescent, qu'il a tout fait pour que son père le regarde. Puis si les choses bien, ça marche pas, au final, il va faire des bêtises de plus en plus grandes pour que son père non seulement le regarde, mais un jour lui dise non. Et comme tout enfant à qui le père n'a jamais dit non, Jacques Mérine adulte ne supporte pas que d'autres lui disent non. Ça le rend fou furieux.
Adolescent, le jeune Mérine a commencé à fréquenter le quartier agité de Pigalle dans le 18e arrondissement de Paris. Celui-là même où j'ai commencé ma carrière de jeune inspecteur de police dans les années 90.
Alors le Pigalle des années 50, c'est pas le Pigalle d'aujourd'hui. Hein. Petit et grand malfrat qui fréquente des cafés, prostitution. Adolescent, il était attiré par le monde de la nuit, les lieux interlopes, ce genre de choses. Il y avait déjà cette attirance assez jeune. Et puis surtout, ce qui va être déterminant, c'est l'équipe de Louviers. Là, il a des amis d'adolescence. Il va les convaincre de faire des coups avec lui. Il a 20 ans, là, hein, pas plus.
Là, on parle de quoi, des coups? On parle de cambriolage, de choses comme ça?
Au départ, cambriolage, oui. Il repère les maisons qui sont des résidences secondaires et qui ne sont pas habitées. Et puis, ils font ce genre de coups. Il y a une... nécessité quasiment chez lui de pousser le bouchon toujours plus loin, de se challenger lui-même et d'entraîner les autres.
C'est précisément à cette période qu'il rencontre Lydie de Souza. Jacques travaille encore à l'atelier de broderie de son père. On dit de lui qu'il est gentil, mais déjà un peu rebelle.
Une fois, il a dit aux employés qui brodaient, il leur a dit, bien, mon père est comme tous les patrons, il vous exploite. Il avait des idées un peu...
Le mariage de Jacques et Lydie est célébré à Clichy-la-Garenne en 1955. Lydie est enceinte suite à une brève relation avec un étudiant peu de temps avant sa rencontre avec Jacques. Bien que cette situation ne soit pas du tout évidente dans les années 50, Jacques accepte très bien cet enfant.
Il ne m'a jamais demandé qui était le père. Il ne voulait pas savoir. Aucune question.
Au fond, Jacques s'est vraiment comporté comme un père...
Comme un père, comme si c'était son fils. Il l'a aimé comme si c'était son fils.
Le jeune couple s'installe d'ailleurs dans la demeure familiale.
J'habitais chez les parents. J'ai fait la connaissance de mon beau-père.
Et vous avez été bien accepté par la famille ?
Ah, très bien. Mon beau-père était un homme adorable. Il m'a reçu tout de suite, il m'a dit « Je suis très heureux de faire votre connaissance. »
Pour la famille Mérine, la période semble heureuse. Mais lorsque Jacques part faire son service militaire, la situation du couple se dégrade.
C'est un garçon qui était très jaloux, par contre. À chaque fois, il faisait le mur, il venait à Paris pour me voir, surtout, toujours.
Bah, c'est plutôt romantique comme attitude.
Oui, c'est romantique. Et puis ma belle-mère aussi, un jour, elle venait me chercher à la fin de mes cours. Et puis ce jour-là, j'avais séché mon cours et j'étais chez une amie, donc elle a dit ça à Jacques, qui était très jaloux. C'est lui qui a demandé ce jour-là.
C'est à cause de cette histoire que vous avez séché les cours qu'il a demandé le divorce ?
Il a demandé le divorce, oui.
On imagine que d'autres éléments ont aussi contribué au divorce du couple, car je comprends, entre les mots pudiques de Lydie, que la jalousie de Jacques était quasi obsessionnelle. À travers les témoignages et les anecdotes sur son comportement, on comprend que Mérine ne tolère pas les situations qui échappent à son contrôle. Je constate aussi que dès son jeune âge, Jacques commet des délits et apparaît déjà comme un garçon révolté et narcissique.
Les choses ont changé. La France doit prendre conscience que c'est actuellement que se joue le sort de l'Algérie et que c'est actuellement que se joue le sort de la nation française.
À cette époque, la guerre d'Algérie bat son plein.
Le gouvernement met en œuvre tous les moyens dont il dispose pour restaurer l'ordre et pour ramener le calme.
Mérine explique dans son ouvrage « L'instinct de mort » s'être porté volontaire pour aller combattre en Algérie. Jacques Mérine, qui effectuait alors son service militaire, a-t-il choisi d'aller combattre en Algérie ? Cette décision est-elle consécutive à sa séparation avec Lydie ? Difficile à dire. Mais Lydie, comme plusieurs autres proches, pense que son engagement dans ce conflit est un point tournant dans le comportement de Jacques.
Ça m'a surpris parce que je me suis dit, est-ce ma faute ? Il a commencé à son retour d'Algérie. Le fait de changer complètement de vie, commencer à fréquenter... Je me suis un peu culpabilisé. Quand il partait en Algérie, il est venu. Il m'a dit, j'ai plus rien à perdre, et puis il est parti.
Donc pour vous, finalement, il l'a très très mal vécu, ce divorce.
Il a très mal vécu, oui, il a très mal vécu. Et c'est après son retour d'Algérie qu'il a commencé à changer.
Jacques Mérine arrive à Alger en juillet 1957. Selon son dossier, il est incorporé au service militaire comme simple soldat. S'il est fait état de quelques décorations reçues, son dossier mentionne surtout qu'il est affecté à un groupe de soutien, le matériel, et non à un groupe de terrain ou une section opérationnelle.
Dans l'instinct de mort, il explique qu'en Algérie, il a vu, il a fait, et on lui a fait faire des choses tellement horribles qu'il était incapable de se réinsérer dans la vie civile de manière normale.
Mérine a-t-il pu, comme il le dira plus tard, être traumatisé par ce qu'il a vu ou fait en Algérie ? Philippe Roisest n'y croit pas.
Les cinq personnes que j'ai rencontrées qui ont fait leur service militaire avec Jacques Mérine, elles n'y croient pas. Les militaires que j'ai rencontrés n'y croient pas. Et il n'y a aucune trace de ça dans aucun document. On ne peut même pas parler de version officielle, c'est la version de Mérine, quoi.
Pour moi, le fait que tu aies parlé à des gens qui ont fait le service avec lui, c'est un élément vraiment important, mais il reste que il a quand même participé à des situations de combat, quand même. On peut pas dire le contraire.
Non, je corrigerais quand même. Il a participé à des patrouilles, dont une qui s'est, entre guillemets, envenimée, où il y a eu de l'action.
S'il me semble indiscutable que Philippe Roisès a mené des recherches approfondies et très sérieuses, deux choses me poussent toutefois à avoir un avis un peu différent sur ce point. La première est que le dossier militaire de Mérine fait tout de même état de sa participation à 14 embuscades et patrouilles, ce qui, dans le contexte de la guerre d'Algérie, n'est pas anodin. Il y est d'ailleurs fait mention d'un accrochage, terme pudique pour évoquer des combats armés, durant lequel, je cite, « 6 rebelles ont été abattus et un autre capturé ». Il ne fait donc aucun doute que Mérine a, durant ce séjour, connu la violence des combats. Mon second doute repose sur le fait que l'existence d'un stress post-traumatique chez de nombreux soldats qui reviennent de zones de conflit est un fait aujourd'hui établi et bien documenté. Il ne serait donc pas si étonnant que la violence de Mérine prenne en partie sa source dans une expérience personnelle difficile et pourquoi pas traumatisante pour le fils de bonne famille qu'il était. Même si on sait maintenant que Mérine n'a parfois pas hésité à en rajouter pour se créer une légende, il n'en reste pas moins que plusieurs personnes qui le connaissent disent que ce séjour en Algérie l'a transfiguré. Sa propre sœur dira plus tard au policier qu'il en est revenu changé. Son ami d'école, le chanteur et compositeur Jean-Jacques Debout, a pour sa part dit « ça l'a cassé ». En mars 1959, à son retour d'Algérie, Jacques semble vouloir se ranger. C'est à cette période qu'il rencontre sa seconde femme, Maria de la Soledad, qu'il épouse en 1961. La même année, naît leur fille Sabrina. Jacques a un travail, mais dans le même temps, il fréquente assidûment les cercles de jeu. On ignore si c'est pour financer ses pertes au jeu ou pour une autre raison qu'il commet quelques cambriolages. Mais visiblement, l'homme a du mal à réfréner ses élans criminels.
Jacques Mérine ne s'est jamais arrêté dans ses projets de gangstérisme ou de malfaiteur. C'est quelque chose auquel je ne crois pas non plus.
Ah, c'est intéressant ça.
Quand il a ce travail où il réalisait des maquettes dans un cabinet d'architecte, c'était juste une couverture. Un ancien policier m'avait confié la fiche Interpol datant de 1973 où il est résumé toutes les affaires importantes qu'a déjà Jacques Mérine à son CV. Là où dans l'instinct de mort, il explique qu'il décide de se réinsérer, qu'il promet à sa femme qu'il fera plus de bêtises, qu'il prend un travail dans ce cabinet d'architecte, que vraiment, le côté malfaiteur, c'est fini, c'est bien fini. En fait, on s'aperçoit que dans les mêmes dates précisées dans son livre, sur la fiche Interpol, il est mentionné des trafics d'armes, il est mentionné des affaires. Donc en fait, c'est juste une couverture.
Entre 1961 et 1962, Mérine est condamné par deux fois à 12 et 18 mois de prison. Maria donne naissance à Bruno Mérine en 1964. Jacques Mérine et sa femme s'installent en Espagne et on le retrouve à la fin de l'année 65 embarqué dans une étrange histoire à Palma de Majorque. Un épisode sur lequel, encore une fois, il existe deux versions divergentes. Dans la première, il s'agit d'un simple vol dans le bureau d'un gouverneur militaire. Dans la seconde, on dit que c'est plutôt un vol de documents et certaines sources indiquent que Mérine pourrait avoir agi pour le compte des services secrets. Des liens entre Jacques Mérine et les services secrets. Vraiment. Dans les faits, ce ne serait pas la première fois que les services d'espionnage français utilisent des criminels pour leurs bases œuvres. Mais dans ce cas précis, j'ai du mal à y croire. Tout comme Philippe Roisès, qui, lui, a eu accès à des informations précises à ce sujet.
Dans la fiche Interpol de 1973 de Jacques Mérine, il y a un fait extrêmement important, c'est qu'on s'aperçoit que la fameuse affaire de Palma de Majorque, qui serait une affaire incroyable d'espionnage, de contre-espionnage, très louche, avec des éléments politiques, qu'il aurait travaillé peut-être pour des services secrets, c'est juste un cambriolage, rien de plus.
Une fois encore, en partie sur la base de ce que dira Mérine lui-même de cette histoire, ce qui n'est certainement qu'un simple larcin s'est ensuite transformé dans les médias et dans l'esprit d'une partie du public en affaire d'espionnage. Dans les faits, on est loin de la vie d'espion, puisque Jacques Mérine devient restaurateur aux îles Canaries avec Maria dans l'année qui suit, en 1966. Leur troisième enfant, Boris, voit le jour, mais le couple bat déjà de l'aile. Ils se séparent durant l'été de la même année et Maria rentre en France avec les enfants. C'est un tournant qui a certainement une grande importance dans la vie de Jacques Mérine, mais surtout pour Sabrina, Bruno et Boris, qui ne reverront plus jamais leur père. Ce n'est que peu de temps après que Jacques rencontre Jeanne Schneider. Ils font connaissance dans le célèbre quartier de Pigalle où Jeanne travaille. Elle est à l'époque fichée comme prostituée par la brigade mondaine. À la suite de vols, cambriolages et malversations, ainsi que des menaces faites à la propriétaire d'une auberge dans la petite ville de Louviers dont ils se sont improvisés gérants, c'est en 1968 que le couple quitte la France pour le Québec.
En 1969, il a 33 ans, c'est le début de la célébrité. Mesrine fait ses armes au Canada avec l'enlèvement d'un milliardaire, avec surtout deux évasions spectaculaires, l'attaque d'un pénitencier, toute une série impressionnante de hold-up et encore des meurtres.
Quatre ans plus tard, fuyant cette fois la police canadienne comme on l'a vu dans les épisodes précédents, Mesrine revient en France et est rapidement représenté dans les médias comme un criminel d'envergure.
Il est là-bas accusé d'avoir tué deux gardes forestiers alors qu'il avait déjà réussi à s'évader. C'est un forcené.
Un vrai tueur.
Sans aucun doute.
Il faut bien avouer qu'à son retour au pays, Mérine ne chôme pas. Il fait tout pour devenir au plus vite l'ennemi public numéro un. Sa jeune compagne québécoise, Jocelyne Derèche, découvre la France pour la première fois dans le contexte très particulier où Jacques s'entoure de différents criminels pour se remettre au braquage. Et Mérine n'hésite pas à mêler Jocelyne à ses entraînements dans la maison de banlieue où ils habitent.
J'ai vu Jacques installer des cordes pour atterrir sur le toit d'une autre maison. C'est là qu'il a vu que j'étais bonne en saut, parce que j'ai pratiquement pas eu besoin de la corde. Il y avait des murs de béton dans le sous-sol. Puis oui, j'ai appris à tirer là. Et j'ai appris à me coucher par terre au cas que la police faisait éruption puis qu'il y avait une fusillade. C'était le grand porte-avions qui m'entraînait, qui sortait son arme, qui avait pas de balle dedans. Il faisait comme s'il me prenait par surprise et j'avais intérêt à me coucher vite.
Le grand porte-avions, c'est Michel Ardouin, dont Mérine a fait la connaissance vers la fin de son séjour canadien et qui l'avait aidé à quitter le pays pour le Venezuela.
Quand il m'arrive en France, moi j'ai une agence immobilière dans l'île Saint-Louis, j'ai un appartement dans l'île Saint-Louis, je suis avec une dame très gentille, très belle. J'ai, je sais pas, 6-7 mandats d'arrêt. Et je bois le coup tous les jours avec les flics qui font la protection du président Pompidou. Marie Mérine, il a acheté sur le parcours à Poitiers un Herstal 5 coups, automatique, une 22 Lorif Hermavert, qui est la réplique de la carabine US. Et je me dis, ce mec-là, c'est devenu un très beau braqueur de banque au Québec. On va monter sur les banques comme des fous pendant 2 mois. Et dans 2 mois, si je remonte un capital de 500 000 francs, ou ça, je repars au Paraguay, je remonte mes affaires.
En effet, les vols à main armée se succèdent à nouveau. Jacques Mérine semble pris d'une sorte de frénésie, enchaînant parfois plusieurs attaques de banque sans même faire de repérage. Toujours avec un ego et un goût de la provocation qui peuvent le pousser assez loin.
Ce que j'ai haï, détesté de lui, c'est quand il disait à quelqu'un qu'il connaissait à peine, « Tu sais pas qui je suis ?»« C'est moi, Jacques Mérine. » J'étais frustré, j'étais choqué après lui. Mais pourquoi? Parce que ces gens-là, ils les mettaient dans l'embarras, parce que ces gens-là auraient dû le dénoncer. Mais c'était plus fort que lui. Je suis Jacques Mesrine.
On comprend avec ce témoignage de Jocelyne Derèche combien Jacques affectionnait le personnage de Mérine, le criminel, qui prend de plus en plus d'ampleur depuis son retour du Québec. Et pour Ardouin, le comportement de Jacques Mérine à cette époque démontre combien il fantasmait ce personnage et agissait de façon irréfléchie.
On était en cavale, on travaillait ensemble, il sortait à mon insu, il allait dans les cercles clandestins de jeu tous les soirs, il faisait la tournée de ceci, la tournée de cela, il avait peur de rien, il sortait, il jouait sa chance, il jouait son jeu.
À propos de risque justement, au début de l'année 73, sans prévenir ses comparses, Mérine se rend dans un bar pour régler des comptes avec un homme qu'il pense être un indicateur de police.
Il me dit qu'il part pour X temps, mais il est en retard de des heures et des heures.
Un policier en civil se trouve justement dans le bar au moment où Mérine y entre. Il y a un échange de coups de feu et le policier est blessé à la jambe. Mérine est lui aussi blessé lors de cette expédition punitive.
Il arrive à un moment donné, il y a du sang sur lui, il a été touché par balle. Il m'a raconté que oui, il est allé pour régler un règlement de compte. J'ai dit, qui est arrivé récemment? Non, ça fait plusieurs années. J'ai dit, t'es stupide, c'est con. T'es en cavale, là. Ta liberté est importante. Mais lui, c'est parce qu'il n'y avait rien à faire, il s'ennuyait avec les autres. On dirait que j'avais envie de bouger un peu. Puis il a mangé une balle dans le bras.
Une nouvelle illustration de l'orgueil de Mérine et de son goût pour l'adrénaline. Un autre événement d'une grande violence vient marquer le retour de Mérine en France. Et cette fois, comme l'explique Philippe Roisès, il s'agit d'un meurtre. Celui d'un jeune proxénète qui s'était mis à dos de grosses pointures du milieu criminel.
Ce jeune proxénète avait fait une connerie. Un truc qui, dans les codes du milieu, ne se fait pas.
Une situation que Mérine et Ardouin doivent régler à tout prix pour éviter qu'elle ne leur retombe dessus.
Il fallait donner un signe de bonne volonté, et le signe de bonne volonté, c'était d'abattre ce jeune proxénète du fait de la connerie qu'il avait fait.
Il n'est pas rare dans le milieu criminel que les situations fâcheuses soient réglées par l'élimination de celui qui est à l'origine du trouble.
Quand j'ai rencontré Jocelyne de Reiche, je l'interviewe, on discute et tout, et puis je ne sais plus si c'est dans l'interview ou si c'est hors interview. Je lui dis, quand il y a eu ce jeune proxénète de 22 ans dans la forêt de Versailles, et qu'ils l'ont abattu, apparemment de une ou deux balles dans le visage à bout portant, et qu'après ils l'ont enterré, vous étiez là? Et elle me dit, bah oui, j'étais là. Ils m'ont dit de rester dans la voiture, mais j'ai tout vu. J'en ai pas dormi pendant des nuits de voir Jacques Mérine abattre ce jeune proxénète à bout portant.
Mérine va alors se retrouver dans la mire des policiers qui parviennent assez rapidement à remonter jusqu'à sa planque grâce à des écoutes téléphoniques. Et moins de 6 mois après son arrivée en France, en mars 73, il est arrêté en bas de chez lui.
Il est sorti faire l'épicerie. C'est en revenant qu'il a remarqué que c'était trop calme. Il s'est mis à regarder. Oups, il était encerclé par la police.
Plusieurs dossiers sont en cours contre lui et il risque de lourdes peines de prison sur plusieurs affaires. Anecdote peu connue du grand public, c'est à l'occasion de cette arrestation que Jacques Mérine propose pour la première fois aux policiers de partager avec lui une bouteille de champagne durant la perquisition menée dans sa planque.
On s'est fait arrêter toutes les deux. Moi, j'étais relâchée. Bien, il a dit même au juge, vous avez intérêt à la libérer. Et au bout de 3 mois, on me libérait. Puis là, aussitôt qu'on m'a libéré, mais pas longtemps après, il s'est évadé.
Toutes les polices de France recherchent celui qui est ce soir l'ennemi public numéro 1. À dire vrai, il porte déjà ce titre au Canada. Il s'agit du redoutable gangster Jacques Mérine, accusé d'assassinat au Canada et d'agression à main armée en France.
En juin 1973, à la faveur d'une comparution au tribunal pour une affaire de chèque volé, Jacques Mérine s'évade. Comme il l'avait annoncé aux policiers lors de son arrestation, il n'est pas resté plus de 3 mois en prison.
Alors qu'il se trouvait dans le couloir du cabinet du juge d'instruction, Mesrine demanda à aller aux toilettes.
Il avait repéré les lieux et un complice a introduit un pistolet Luger 9 mm dans les toilettes du tribunal où il simule des maux de ventre.
Quand il ressortit, il tenait un pistolet à la main et fit feu sur un gendarme qu'il blessa.
Mérine prend en otage le président du tribunal et rejoint un complice qui l'attend dans une Alfa Romeo dans la cour du palais.
Il a pris le juge en otage. Il est sorti du palais avec le juge, il y a une voiture qui l'attendait, c'est enfui dans la voiture.
Mérine relâche le juge au moment de monter dans la voiture. Il est blessé par des coups de feu tirés par les policiers, mais parvient à s'enfuir. Comme il est très activement recherché, sa cavale s'annonce difficile. Mais Mérine aime le risque et se grise de la tension qui ne cesse de grandir à son sujet.
Mais ce qui inquiète surtout les policiers, c'est que Mérine n'a pas hésité à tirer et qu'il fera payer cher sa capture.
Après son évasion du tribunal de Compiègne, Mérine s'est réfugié à Trouville-sur-Mer, sur la côte normande. Jocelyne de Reiche finit par l'y rejoindre.
Et puis là, bah, c'était le bonheur, quoi. Puis on était dans une pièce pas plus grande qu'une cellule. Ça faisait mon bonheur. Pourvu que j'étais avec mon homme, pourvu que lui était avec sa femme.
Jocelyne se souvient qu'il fréquente un bar chez Marcel à Trouville.
La patronne était très gentille. Et un jour, on était là en train de manger, puis il y avait des amis à Jacques qui étaient là. On était peinards, on était tranquille, tout allait bien. Et puis, il y a deux petits truands à la con, puis qui commencent à casser les cendriers. Ils ont manqué de respect à la patronne. aussi vite qu'une guêpe, Jacques a volé sur la table. La table était en avant de nous autres. Assez vite qu'il le poignait à la gorge. Et moi, j'avais le sac d'armes. Il n'a pas eu besoin d'armes. Puis moi, j'ai remarqué qu'en le tenant à la gorge, le titre ne tenait plus à terre. C'est moi qui est arrivé à côté de Jacques. Je lui ai dit, regarde, je m'excuse parce que si tu continues, il ne pourrait même plus s'excuser. Il ne pouvait même plus parler, ne rien dire. Regarde son teint, il s'en vient mauve, bleu, il change de couleur. Il est en train de le tuer de ses mains.
Car avec Mérine, la violence n'est jamais bien loin. Une violence que Mérine ne semble pas non plus capable de contrôler avec Jocelyne.
Quand il me giflait, je donnais une gifle. Et c'est pour ça qu'il m'a respecté, il me l'a dit. Il trouvait que j'avais du cran. Et j'en ai du cran. J'aime pas l'injustice et on ne touche pas une femme. De son caractère, il y a le bon trait, mais le mauvais. Sa jalousie. Une jalousie malsaine. Je n'avais pas le droit de porter de mini-jupe. J'avais pas le droit de sourire à un gars. Si quelqu'un me souriait ou me sifflait après, me flirtait, ben, il se ramassait avec le gun sur la tempe. Ça, je n'aimais pas. Je détestais son orgueil mal placé et sa jalousie malsaine.
Dans les propos de Jocelyne, j'entends l'écho de ce que m'a raconté la première femme de Mérine, Lydie de Souza. Le comportement de Mérine est difficile à supporter et Jocelyne de Reich décide de quitter Jacques. Elle rentre au pays. Mais le lien est difficile à rompre et Jocelyne et Jacques continuent à s'écrire régulièrement. Et malgré la distance, elle va à nouveau subir ses colères.
On s'écrivait tous les jours. Si je passais une journée sans lui écrire, j'écrivais deux lettres le lendemain. C'était la colère totale. On avait été prendre un café, des amis et moi. Juste un petit café. J'étais fatiguée, puis j'ai écrit le matin, je me suis levée plus de bonne heure. J'ai écrit, je lui ai tout expliqué ça. Et j'ai eu des rafales de lettres, de menaces, puis il voulait me défigurer. Et là, je vais défigurer ta belle petite gueule d'amour et toute ta petite sœur.
Là encore, comme avec Lydie une vingtaine d'années plus tôt, Mérine ne supporte pas que tout ne tourne pas autour de lui. Et sa rage est d'une violence qui semble sans limite. En prenant ses distances avec Mérine, Jocelyne lui démontre qu'il ne peut pas tout contrôler. Ce qu'il contrôle cependant, c'est son image, car Mérine sait désormais comment avoir un véritable impact dans les médias. Et il va désormais tout faire pour obtenir une visibilité sans précédent.
Pas oublier que Jacques Mesrine, c'était un tueur. C'est un tueur.
Abdelraouf Dafri est le scénariste des deux films dans lesquels Vincent Cassel tient le rôle de Mérine. Sorti en 2008, ce diptyque spectaculaire a cumulé près de 4 millions d'entrées l'année de sa sortie. Pour mener à bien son travail de scénariste, Abdelraouf Dafri s'est énormément documenté. Je tenais à lui parler car je voulais obtenir l'avis de quelqu'un qui, en projetant la vie de Mérine dans la fiction, a participé à la construction de l'image que les gens peuvent se faire de l'homme autant que du criminel.
Ça ne s'était jamais fait, rendez-vous compte, un diptyque sur un truand qui n'est pas le personnage le plus sympathique qu'en France on ait pu rencontrer. On est dans l'ultra grand banditisme, c'est quand même un mec dangereux.
Aujourd'hui encore, Mérine est perçue comme une sorte de rebelle. Un Robin des Bois des temps modernes dont la violence ne serait qu'une solution de dernier recours. Mais dans les faits, son parcours est marqué par une violence de plus en plus extrême, guidée par l'avidité et l'ego. Abdelraouf Dafri dresse un portrait qui me semble assez juste du Mérine de l'époque.
Moi, je considère que Jacques Mesrine n'est pas victime de sa violence.
Un portrait qui s'appuie notamment sur des rencontres avec son ancienne compagne, Jeanne Schneider, avec qui Mérine était partie au Québec, et un ancien complice, Charlie Bauer.
Quand j'ai rencontré Jeanne, quand j'ai rencontré Charlie, ils m'ont confirmé que je ne m'étais pas trompé. Je me souviens des mots de Jeanne qui me disait que quand Jacques pétait un câble, il n'y a personne qui pouvait l'arrêter, même moi je ne pouvais pas. Et Dieu sait qu'il aimait Jeanne Schneider. Je considère que Jacques Mesrine est quelqu'un qui sait très bien faire la différence entre le bien et le mal, mais qu'il n'en a rien à foutre. C'est lui qui décide. Point barre. Voilà.
Quatrième épisode. La bête médiatique. Après son évasion du tribunal en prenant un juge en otage et une retraite d'à peine 4 mois à Trouville en Normandie, à la fin de l'été 73, Jacques est de retour à Paris, bien décidé à faire parler à nouveau de lui. Il s'apprête à provoquer dans les 5 années qui viennent une véritable explosion médiatique. Le 27 septembre 1973, en plein Paris, Mérine braque 2 banques avec un complice rencontré à Trouville, Pierre Verheyden. Verheyden n'est pas vraiment un voyou endurci. Michel Ardouin, qui écrira plus tard dans un livre y avoir participé avec eux, explique que le second braquage n'était pas du tout prévu et que c'est Mérine, dans l'excitation du moment, qui les a poussés à le commettre. Une imprudence qui leur coûte cher puisque des policiers en patrouille interviennent et des coups de feu sont échangés. Mérine parvient à prendre la fuite mais Pierre Verheyden est arrêté sur les lieux de l'attaque. Et c'est lui qui donne aux policiers des infos qui conduisent à la planque de Mérine.
Son repère a été retrouvé hier en fin d'après-midi, 88 rue Vergniaud, dans le 13e arrondissement à Paris. En une heure, la police cernait tout le pâté de maison.
Entre alors en scène le commissaire Broussard.
Né en 1936, le commissaire Broussard entre dès la fin de son service militaire à la préfecture de police.
Robert Broussard est alors le chef de la prestigieuse brigade de répression et d'intervention qu'on surnomme l'anti-gang.
On le retrouve dans la plupart des affaires de hold-up importants et sur le théâtre...
Il est aussi un policier connu du public qui s'est taillé une place de choix dans les médias. Broussard va devenir le vis-à-vis médiatique de Mérine, la figure du héros face à l'ennemi public. Le commissaire Broussard et ses hommes ont encerclé l'immeuble où se trouve Mérine qui n'a aucune possibilité de fuite.
Dans un premier temps, c'est vrai, il nous a fait tout un cinéma. D'abord, il a fait comme si... D'abord, il n'y avait personne dans l'appartement. Aucun bruit, rien ne répondait pas. Et finalement, on a pu déceler un bruit à l'intérieur. Et à partir de là, s'est engagé un dialogue qui a duré pratiquement une heure.
René-Georges Kerry, alors policier à l'anti-gang sous les ordres de Broussard, me raconte l'ambiance de l'époque.
Mesrine, il est piégé, il sait qu'il ne peut pas s'en sortir. Donc... ou il ouvre le feu et il est abattu sur le champ, ou alors, dans sa tête, il a calculé qu'il allait se faire arrêter, mais il en rajoute, parce qu'il a le sens de la mise en scène, parce qu'il a le sens de la comédie. Il crée, il construit son personnage de western, genre Le Bon, la Brute et le Truand, où il était une fois dans l'Ouest, avec le dernier face-à-face, Bronson Fonda, l'harmonica et Franck le Tueur. Et il pense déjà à la suite. Il se dit, bon, je suis pris, je peux engager ma vie. Je me rends, mais je me rends avec panache, parce qu'on le racontera ça un jour, parce qu'il est déjà dans sa mégalomanie du grand bandit qui soigne son image.
Le bon et le truand. En face du policier, le bandit. Deux archétypes qui font le bonheur des médias.
Mesrine m'a lancé comme un défi en disant dis donc, Broussard, est-ce que tu es aussi gonflé qu'on le dit, tu es un dur de dur, mais est-ce que tu serais capable de venir me chercher sans armes?
Mise en scène, mais pas seulement. Gagnant du temps en négociant sa reddition, Mérine en profite pour brûler des documents avant de laisser Broussard et ses hommes entrer dans l'appartement. Puis il lui offre du champagne, comme il l'avait fait 6 mois plus tôt lors de sa précédente arrestation. Cette scène du champagne est encore aujourd'hui un fait marquant, autant pour Mérine que pour la carrière de Broussard.
Il est sorti, mais très, j'allais dire, très mesrinien, le bombant le torse, un énorme cigare à la bouche, me tendant les poignets et me disant « Broussard, tu ne trouves pas que c'est une arrestation qui a de la gueule ?»
En fait, comme l'explique René-Georges Kerry, cette première rencontre a contribué à sceller la notoriété des deux hommes.
Broussard, qui a quand même une notoriété et une carrière exceptionnelle, il faut le dire aussi, ça y contribue. Broussard est probablement le policier qui est dans le domaine du banditisme et des prises d'otages, a le plus beau palmarès de la police nationale et même de la gendarmerie. Broussard, il a fait quand même presque 10 ans à la BRI comme numéro 2, comme numéro 1, et les coups d'éclat, il les a accumulés, avec en plus à l'époque une technique qui était rudimentaire, du matériel qui n'existait quasiment pas. C'était chaque fois qu'on avait une opération difficile, c'était chaque fois une opération, mais sur le fil du rasoir, vraiment, vraiment. Donc, Broussard a fait la une des journaux, Broussard était connu médiatiquement, Mesrine se faisant arrêter par Broussard, ça a été repris par la presse, il y a eu l'impact médiatique. Ça faisait partie, ça, c'était
un des éléments de la construction du personnage Mesrine l'emblématique, Mesrine le grand voyou, avec un peu plus de notoriété, avec toujours un peu plus de notoriété.
Et comme souvent dans la construction d'un mythe, on a tendance à oublier les échecs et les faux pas. Car c'est bien l'arrogance et l'imprudence de Mérine qui ont conduit les policiers de l'anti-gang sur ses traces, ainsi que sur celles de ses complices comme Michel Ardouin, qui sera alors arrêté. Mais la légende est en marche, et Mérine est désormais perçu comme un fin stratège, un criminel très dangereux et extrêmement intelligent.
Quand j'arrive dans la prison de la santé et que je demande à voir M. Mesrine, on me fait attendre anormalement devant les parloirs.
1974, Jacques Mérine est détenu en attente de son procès. Compte tenu de ses multiples évasions et de ses prises de position contre les prisons, il est évidemment considéré comme un détenu à surveiller tout particulièrement. La jeune avocate, Marie-Christine Etlin, fait alors partie du groupe Information Prison, le GIP, qui jouera un grand rôle sur la question des prisons et des conditions de détention.
Et tout d'un coup, il y a un monsieur en costume qui arrive et qui me dit « Maître, il faut que je vous parle. » C'est le directeur de la prison. Donc, il me fait rentrer dans une pièce. C'est la salle d'audience du quartier disciplinaire. Il me prend quasiment par le bras. Il me conduit derrière un bureau en bois. Et il me dit « Vous vous asseyez là, à ma place. » Je m'assieds là et il me dit « Vous allez recevoir, maître, un homme très, très dangereux. Or, vous êtes une très jeune avocate. » Je lui dis « Oui, mais vous savez, jamais eu peur de mes clients. » Il me dit « Oui, oui, mais nous, on a peur pour vous. » « Ah bon ? » ?»« Donnez-moi votre main. Vous avez sous le bureau, ici, une alarme. Je vais la faire sonner pour vous montrer. Je ne vous dis pas. Toute la santé, sans doute, a entendu l'alarme. » Alors, Jacques est un... C'est un voyou. Mais, attention, c'est quelqu'un qui n'est pas de la classe traditionnelle des voyous. Et c'est vrai que la question qui s'est toujours posée à moi, c'est pourquoi il en était arrivé là. Toujours. Pourquoi ce garçon, qui était d'une famille de la petite bourgeoisie, était devenu un voyou? C'était pas tous les jours qu'on voyait ça.
Non.
Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Quelque temps avant Noël, alors je ne sais pas si en 74 ou 75, Jacques Mesrine m'a envoyé une carte postale et le texte suivant. « Cher maître, vous n'aviez pas samedi votre parfum habituel. Il y a longtemps que j'ai oublié le prix des roses ainsi que celui des parfums. J'espère que cela suffira. Bon Noël. » Jacques Mesrine. Jacques Mesrine ne pouvait pas avoir senti mon parfum parce que je n'en avais jamais quand j'allais en prison.
Moi, j'interprète ça aussi comme le fait qu'il ne faisait pas la distance entre le personnel et le professionnel, finalement.
Bien sûr, un petit peu, mais il y en a beaucoup. Vous savez, ça, c'est un autre débat.
C'est un trait de caractère aussi, de savoir rendre les choses personnelles. Parce que on le voit quand on étudie la personnalité de Mérine, ou en tout cas ses gestes, il rend tout personnel. À chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il lui écrit,
il lui
parle, il lui envoie des messages. Sa stratégie, c'est de tout le temps construire un lien.
Tout ramener à lui. Ça, c'est très clair.
Tout ramener à lui. Du fond de sa cellule, Mérine ne ménage pas ses efforts pour ne pas être oublié. Rappelant régulièrement qu'il est un bandit d'honneur dans ses interventions publiques, il ne tolère pas que l'on tente de déconstruire le personnage qu'il met de l'avant. En novembre 1975, à la suite d'un article qui lui a déplu, il envoie une lettre de menace au journaliste du quotidien L'Express, Jacques Desrogis.
Du fond de sa cellule, il lui avait envoyé une lettre par laquelle, entre autres amabilité, il disait ceci « Vous pouvez vous attendre à la visite de certains de mes amis, vous pouvez toujours porter plainte pour menace. L'ennui, c'est qu'un bout de papier n'a jamais servi de gilet pare-balles. »
La réponse du système pénitentiaire ne se fait pas attendre, il est déplacé vers les quartiers de haute sécurité de la prison. Tandis que le procès de Jacques et de ses complices, dont Michel Ardouin, approche, Mérine trouve une nouvelle façon de faire parler de lui en faisant paraître en mars 1977 un livre intitulé « L'instinct de mort ». C'est dans cet ouvrage autobiographique qu'il revendique pas loin d'une quarantaine de crimes, chiffre que de nombreux policiers et observateurs qui ont suivi son parcours jugent farfelu. Enfin, en mai 77.
Un déploiement de force impressionnant hier autour du palais de justice de Paris. Il est vrai que l'homme dont le procès a commencé s'appelle Jacques Mesrine.
Il aura fallu aujourd'hui 6 heures au greffier de la cour d'assises de Paris pour lire l'acte d'accusation, c'est-à-dire la liste des faits reprochés à Jacques Mesrine et à 3 complices.
Visage carré, cheveux bruns, grosse moustache, Mesrine est un personnage de forte carrure qui dégage une impression de force.
Les médias suivent désormais avec beaucoup d'intérêt les frasques de ce criminel charismatique. Mesrine retrouve enfin une tribune publique d'envergure et ses meilleures répliques sont reprises et rapportées avec enthousiasme par les journalistes.
Il se fâche lorsque on l'appelle l'ennemi public numéro 1. Cela ne veut rien dire, monsieur le président, c'est un mythe. En fait, je suis l'ennemi des services publics, des riches et de ceux qui dirigent la société. Je ne suis pas le grand méchant loup, je ne mange ni la grand-mère, ni le chaperon rouge. Et Mesrine ajoute, c'est quelques mots qui laissent quand même un peu rêveur, en fait, je considère que je suis un truand qui fait son métier proprement. Cette réplique provoque l'hilarité du public et même quelques sourires chez les jurés.
Un Mesrine qui n'a rien perdu de son sens du théâtre et de la manipulation. Mais Mesrine n'est pas le seul à aimer les flashs et les caméras.
Au procès du gangster Mesrine, devant les assises de Paris, la défense a cité un témoin plutôt inattendu, le commissaire Broussard, chef de la brigade anti-gang, celui qui a arrêté Mesrine le 8 mars 73. Comme l'arrestation s'est déroulée sans casse, l'avocat de Mesrine espère que le témoignage de Broussard favorisera son client. C'est la première fois en tout cas qu'un super flic est appelé au secours d'un super truand. Le commissaire Broussard viendra à la barre cet après-midi.
À l'issue d'un procès mouvementé une fois encore, ponctué par les esclandres de Mesrine, il écope finalement d'une sentence plutôt clémente.
Le verdict au procès Jacques Mesrine, celui qu'on a appelé l'ennemi public numéro 1, est condamné à 20 ans de réclusion.
Mesrine, tout à l'heure, il y a quelques secondes même, a accueilli ce verdict en souriant. Il faut dire que ce soir, ses avocats s'attendaient au pire.
Mesrine semble peu ému par cette condamnation. Et juste avant d'être envoyé à la prison de la santé, il demande à voir le commissaire Broussard.
Juste avant de partir en prison, Mesrine demande à me voir. Je vais le voir dans sa cellule. C'est une discussion en tête à tête. Et il me dit, écoute, c'est normal que j'ai demandé à te voir. C'est normal, quand on part pour un long voyage, c'est normal de saluer les amis. Et il me dit, tu sais, je me donne 2-3 ans pour sortir de là. Sinon, je me fous en l'air, mais je ferai le maximum. Et c'est con ce qui va nous arriver, Broussard. Mais on sera obligé de se tirer sur la gueule. Qu'est-ce que tu veux? Le premier qui tirera aura raison.
Et un an, presque jour pour jour après le jugement, Mesrine réussit à nouveau l'impensable.
8 mai 1978, 10h30, Jacques Mesrine, l'ennemi public numéro 1, vient de s'évader de la prison de la Santé. Avec un autre repris de justice, François Besse, leur complice, Christian Rive, est abattu par la police.
François Besse est un braqueur à la réputation déjà bien établie qui s'est évadé de prison 3 fois entre 71 et 78. Il sera surnommé le roi de l'évasion ou l'anguille car il commettra pas moins de 7 évasions dans sa carrière criminelle.
Mesrine et Besse ont pu s'enfuir en arrêtant une voiture. Mais ce qu'il y a de plus ahurissant dans cette histoire, c'est que ces 3 hommes, gardés dans le quartier de haute surveillance de la Santé, ont pu s'échapper parce qu'ils disposaient d'un véritable arsenal caché dans le plafond du parloir, l'endroit où ils pouvaient s'entretenir avec leur avocat.
Grâce aux armes que Mesrine a récupérées précisément dans cette cachette, les 2 hommes s'emparent des vêtements des gardiens et parviennent à s'enfuir. L'avocate que Mesrine venait de rencontrer dans le local, Christiane Giletti, sera soupçonnée d'avoir fourni ses armes et même inculpée, comme on disait à l'époque, avant de bénéficier d'un non-lieu. Cette évasion de la prison de la Santé rappelle évidemment celle tout aussi spectaculaire de la prison de Saint-Vincent-de-Paul au Québec. Et tout comme il l'avait fait lorsqu'il était au Québec, Mesrine revendique dans les médias son droit à l'évasion.
J'ai voulu, en évadant, pas démontrer quelque chose, j'ai voulu reprendre ma liberté. J'ai rien cherché à démontrer en évadant. Or, le droit de tout homme enfermé, c'est de s'évader. Le rôle de l'administration pénitentiaire, c'est de faire en sorte que cet homme ne puisse pas s'évader. Mais le rôle aussi de l'administration pénitentiaire sera peut-être de créer un climat qui fasse que cet homme pense à autre chose que s'évader. Vous comprenez? Si un type pensait que la détention peut lui amener quelque chose, il ne créerait pas ce climat de haine. Peut-être que cet homme chercherait à se rééduquer, il chercherait à se réhabiliter. Mais si vous mettez un homme, vous le plongez un homme dur. Vous savez, un type qui est dur, plus vous le frappez moralement, physiquement, plus il devient dur. Moi, je n'ai pas accepté cette détruction.
L'évasion de l'imprévisible Jacques Mérine en compagnie du multirécidiviste François Besse est à l'époque un très mauvais scénario pour la justice et les forces de l'ordre. Rien de surprenant donc que toutes les polices soient en alerte.
Les 100 000 policiers, les 80 000 gendarmes, la police de l'air et des frontières, bref, hormis l'armée, tout ce qui porte un uniforme en France, près de 200 000 hommes qui savent que Mesrine s'est évadé, ils le savent et ils ne l'oublieront pas.
S'il est difficile de dire avec exactitude à quel moment le titre d'ennemi public numéro 1 a été utilisé pour la première fois dans les médias pour qualifier Mérine, on peut toutefois avancer avec une assez bonne certitude que c'est cette évasion qui va consacrer ce statut. Un titre qui sera ensuite régulièrement utilisé par tous les médias et qui n'était certainement pas pour déplaire à certains policiers pour lesquels mettre la main sur le numéro 1 est considéré comme une mention d'honneur à ajouter à sa carrière. Mais pour cela, il faut d'abord le localiser. Et justement, moins d'un mois après son évasion, Mérine refait surface.
Hier matin, on apprenait que deux gangsters avaient raflé la caisse du casino de Deauville, qu'une fusillade avait suivi leur retraite et que deux personnes d'ailleurs avaient été blessées, dont une femme grièvement.
Le 28 mai 1978, Mérine est identifié comme l'un des assaillants possibles du casino de Deauville. Un endroit qu'il connaît bien, puisque c'est là qu'il allait jouer après son évasion du tribunal de Compiègne en 1973.
Quelques minutes avant le hold-up, il s'était en effet présenté au commissariat de Deauville, se faisant passer pour un commissaire parisien. Il demandait à voir le commissaire de service qui n'était pas là. En réalité, il venait surtout voir lui-même quels étaient sans doute les effectifs de permanence.
Une fois encore, Mérine se distingue du comportement habituel des voyous qui cherchent à agir dans la discrétion.
Et pour signer son premier coup depuis sa nouvelle cavale, il se présentait finalement lui-même au directeur du casino en empochant les 80 000 francs de la caisse. « Vous avez sans doute entendu parler de moi, lui dit-il, je suis Mesrine. »
Visiblement peu préparé, le braquage tourne mal et les deux hommes prennent la fuite après un échange de coups de feu dans lequel plusieurs personnes sont blessées. Prenant en otage un couple de fermiers avec leurs trois enfants, Mérine et Besse, blessés, finissent par disparaître dans la nature et échapper aux policiers. Traqués et aux abois, le duo ne tarde pas à reprendre les attaques de banque.
C'était encore Mesrine qui a attaqué ce matin une succursale de la Société Générale au Rincy, en Seine-Saint-Denis. Un hold-up parfait, sans armes, sans victimes, au nez et à la barbe de tout le personnel. 450 000 francs de butin, Mesrine s'est même payé le luxe de se faire raccompagner par ses otages à la gare du Nord avant de disparaître dans la foule.
Un hold-up parfait, disent les médias. Seulement si on oublie le fait que pour ce vol, toute la famille d'un responsable d'agence avec sa mère et ses enfants en bas âge ont été pris en otage et gardés sous la menace d'une arme le temps que le père aille retirer l'argent de sa propre agence pour sauver sa famille. Fidèle à son habitude, Mérine ne fait rien pour être discret, bien au contraire.
Les coups de main de Mesrine ne sont pas terminés. Il s'est vanté devant ses otages d'avoir relevé les noms et les adresses de tous les gens qui avaient témoigné contre lui à son procès. Entre Mesrine et les 15 inspecteurs de la police judiciaire mobilisés 24 heures sur 24 pour le retrouver, la course contre la montre vient de commencer.
L'omniprésence de Mérine dans les médias met de plus en plus de pression sur les autorités. Comme les actes criminels de Mérine se sont déroulés autant à Paris qu'en province, ce sont les deux principaux services de police chargés de la lutte contre le banditisme qui mènent l'enquête. D'un côté, l'anti-gang, avec à sa tête le déjà célèbre commissaire Broussard chargé de lutter contre le crime organisé dans la capitale, et de l'autre, l'Office central de répression du banditisme, l'OCRB, qui a une compétence nationale et qui est dirigé par Lucien Aimé Blanc. Aimé Blanc, policier décontracté et charismatique qui a pris part activement à la lutte contre le trafic de drogue durant la French Connection, et l'antithèse de Broussard, ancien militaire, adepte des méthodes commando. Les deux services œuvrent dans le même sens, mais une certaine concurrence commence à se faire sentir au niveau des chefs, qui aimeraient bien accrocher le nom de Mérine à leur tableau de chasse. Sans oublier les gendarmes qui, eux, aimeraient bien coiffer sur le poteau tous ces policiers spécialisés en mettant la main sur celui qui est désormais le criminel le plus recherché de France.
Là, quand même, pendant 18 mois, il en fait des coups, hein, Mesrine, et c'est pas des coups romantiques.
René-Georges Kerry, un ancien policier de l'anti-gang, est à l'époque sous les ordres de Broussard.
En fait, sa violence apparaît de façon encore plus nette, je dirais plus sophistiquée, j'ose pas dire plus subtile, durant ces 18 mois. C'est de plus en plus une bête fauve, de plus en plus un type qui prend goût finalement à sa violence et à son sadisme. Et on sait bien que quand on se retrouvera face à lui, il n'y aura pas d'autre choix, soit qu'il lève les mains et qu'il ne bouge pas une oreille, soit s'il fait un autre geste que lever les mains, de l'abattre.
Pour les policiers, la réalité est bien loin de la vision fantasmée du criminel de haut vol que diffusent alors les médias. La traque de Mérine commence à devenir de plus en plus personnelle pour les enquêteurs qui constatent jour après jour la violence grandissante qui l'anime. Et tandis qu'ils pensent que Mérine a pris le large, il est plutôt retourné s'installer dans le 18e arrondissement de Paris. Dans un bar de Pigalle, justement, il rencontre Sylvia Jean-Jacot. Ce sera sa dernière compagne, celle qui restera avec lui jusqu'à la fin. Mérine et Sylvia s'installent dans un appartement non loin de la porte de Clignancourt. Et le criminel continue de se griser de l'attention des médias.
On l'attendait partout, au détour d'une banque, dans une voiture prise sous les balles des policiers, braquée dans sa retraite, mais pas à la une d'un hebdomadaire, Paris Match en l'occurrence, interviewé tranquillement comme la personnalité du jour, c'est de Jacques Mesrine qu'il s'agit.
Au milieu de l'été 78, alors que les meilleurs limiers de la police française sont à ses trousses, Mérine donne une entrevue de plusieurs heures à la journaliste Isabelle de Wangen pour le magazine Paris Match. Il joue enfin pleinement le rôle du personnage qu'il s'est soigneusement créé.
Photographié également avec complaisance, deux revolvers à barillet dans des étuis de ceinture, Mesrine raconte abondamment ses aventures et ses états d'âme, une interview pour le moins surprenante.
Dans une mise en scène assez évidente, on voit en première page du célèbre magazine Mérine en photo avec les armes à la main. Des images et une entrevue qui, comme l'explique le documentariste Philippe Roisès, n'ont rien pour alléger l'ego du criminel.
Mérine, c'est pas simplement quelqu'un qui se gausse d'avoir fait des choses incroyables, il fait des choses incroyables. Donc comme il est porté sur l'ego, plus il va faire des gros coups, plus l'ego va gonfler et plus il va vouloir le mettre en scène.
C'est une entrevue qui donne une large place aux propos violents et aux menaces. Mérine dit qu'il n'hésitera pas à tirer sur les policiers et, je cite, « les achever s'il le faut ». Un article qui, selon ce qu'a écrit Roisès dans son livre « Mérine, fragment d'un mythe », aurait rapporté 200 000 francs de l'époque au célèbre criminel. On peut discuter longuement du fait d'avoir ainsi offert, en plus de l'argent, une telle tribune à un criminel en cavale. On parlerait certainement aujourd'hui de voyeurisme d'un côté et de l'autre de liberté de la presse. Quoi qu'il en soit, cette entrevue d'un homme qui tire sur les policiers et prend des familles en otage ne passe pas.
En France, la presse est libre. Étant libre, elle doit être responsable.
Mérine raconte dans l'article sa haine du milieu pénitentiaire et annonce au garde des Sceaux une violence comme il n'en a jamais vu en France s'il ne supprime pas les QHS. Et comme au Québec quelques années auparavant, la mise en avant de la question des quartiers de haute sécurité par Mérine contribue une fois de plus à un débat qui le dépasse largement. Une charge contre le système qui, plus que toute autre chose, ressemble à de la révolte, comme l'expliquait un de ses complices de l'époque aujourd'hui décédé, Charlie Bauer.
Mesrine n'était pas un révolutionnaire, il n'était pas un politique. Mais il devenait intéressant, sur la fin. Quelqu'un qui est prêt à mourir pour ses idées, il est intéressant.
Charlie Bauer, qui fut toute sa vie un militant dans l'âme, s'est battu durant plusieurs décennies pour améliorer les conditions de détention en France. Complice de Mérine à la fin des années 70, il semblait éprouver un étrange mélange d'irritation et d'affection pour celui qui fut, quelques années durant, son comparse dans plusieurs coups et braquages. Une relation entre un révolutionnaire et un révolté dont je discute avec Philippe Roisès.
Quand on lit les écrits de Bauer, ce qu'on comprend, c'est qu'il lui reproche de manquer de fond, de manquer de profondeur, de réflexion sur les enjeux dont il discutait avec lui. Et c'est drôle parce que ça laisse un portrait de Jacques Mérine qui reste très en surface de toutes ces questions-là.
Ah oui, et puis je pense qu'il n'avait aucune volonté de les creuser. Il pouvait tomber d'accord avec des choses. Et effectivement, Mérine, c'est quelqu'un qui avait une curiosité et une intelligence instinctive, mais absolument pas intellectuelle. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, globalement, beaucoup de gauchistes ont quand même été intéressés par Jacques Mérine, par la figure qu'il représentait, la figure en opposition, la figure à faire la nique à la police, provocateur, soutien de la lutte contre les QHS. Il y a ce qu'on appelle aussi le mouvement autonome, qui, en France, a vraiment existé à partir de la moitié des années 70. Il a été une figure pour eux. Il est considéré comme une de ces personnes qui a refusé de travailler. Bon, il y a toute une théorie, la figure du délinquant révolutionnaire. Après l'ouvrier comme sujet révolutionnaire marxiste, il y aurait le délinquant ou celui qui vit de manière précaire et marginale qui aurait pu être le prochain sujet révolutionnaire.
Mais en même temps, si on regarde le parcours criminel de Mérine, Il est à fond dans le système. Lui, il décide de braquer des banques, d'enlever des gens pour récupérer du pognon. Pognon qu'il va réinjecter en s'achetant des BM, des apparts, des trucs, des machins. Donc, au fond, ce gars-là fait partie à 100% de la société de consommation de l'époque.
Non, mais bien sûr, Mérine n'avait pas une conscience politique construite et il s'en fichait un peu. Mérine, il était capable de vivre dans un trou à rats si c'était nécessaire, mais en même temps, quand il avait de l'argent à dépenser, il allait le dépenser dans des lieux luxueux. Il a jamais financé une quelconque guérilla ou un mouvement politique radical, absolument pas. Non, non, il pensait effectivement à consommer et en ça, il n'était pas différent finalement de la majorité des gens. Il n'avait absolument aucune volonté de dynamiter le système.
Et les militants et militantes, comme l'avocate Marie-Christine Etlin, ne sont pas dupes des motivations réelles de Mérine.
Il avait une révolte, Jacques Mesrine, mais elle n'était pas politique, elle était personnelle et surtout elle ne le conduisait pas à analyser la situation. Je pense, moi, fondamentalement, que c'était un réactionnaire. Voilà.
Pourtant, Mérine envisage, comme il l'a tenté au Québec, d'attaquer la prison de Mende, où il a été brièvement emprisonné afin de libérer des détenus. Une action folle et irréalisable dans les faits, ce dont Mérine ne semble même pas se rendre compte, malgré l'échec cuisant de l'attaque de la prison de Saint-Vincent-de-Paul des années auparavant.
Heureusement que ce projet n'a pas eu lieu, parce que je pense qu'il était bien trop ambitieux. Je pense que ça aurait été un carnage et qu'il n'aurait pas réussi. Alors, est-ce que Mérine aurait été capable, sachant que c'était un projet fou et qu'il était irréalisable, de quand même le faire, parce que médiatiquement, ça lui aurait donné beaucoup de points auprès de beaucoup de gens, exactement comme il a fait quand ils sont allés attaquer l'unité spéciale de correction au Québec, alors qu'il savait pertinemment qu'il n'arriverait pas à libérer les prisonniers qui étaient dedans. Là, il y a une espèce de redite qui nous dit quelque chose de Mérine.
Et si, au fond, Mérine n'avait pas été, comme on l'a souvent présenté, un homme révolté contre le système, mais plutôt un homme souvent guidé par sa colère et son esprit de vengeance? Ces menaces répétées à l'intention des journalistes et de tous ceux qui ne le présentent pas sous un jour favorable n'en sont-elles pas la démonstration la plus évidente? Un événement extrêmement grave montre clairement, en cette fin d'année 78, que Mérine a la rancune tenace et la violence facile.
Qu'est-ce qui se passe avec l'histoire du juge Petit? Pourquoi Mérine se met en tête de s'en prendre au juge Petit?
Pour moi, c'est juste de la vengeance personnelle. Le juge Petit, c'était le juge qui l'a jugé lors de son grand procès de 1977 au Palais de Justice à Paris. Mérine fait une expédition punitive chez le juge Petit parce qu'il a envie de lui donner une bonne leçon, de lui faire peur. Mais en tout cas, il n'y a aucune raison politique derrière.
Ça montrait à Mérine qui avait pas prévu le coup, qui savait pas quoi faire, qui avait perdu toute contenance et tout contrôle.
Je m'en fous qu'on nous condamne à mort, vous allez tout le temps vous souvenir de moi.
Mon nom est Stéphane Berthomet et vous écoutez Mérine, l'orgueil et le sang. J'ai scénarisé et animé cette série qui est réalisée par Cédric Chabuel. Cette série est une coproduction Radio-Canada Audio et France Culture.
Vous venez d'écouter une adaptation antenne des épisodes 3 et 4 de ce podcast original. Samedi prochain, de 16h à 17h, vous découvrirez les deux derniers épisodes du parcours de Jacques Mérine. Mais sans plus attendre, retrouvez les 6 épisodes de Mérine, l'orgueil et le sang en intégralité sur franceculture.fr et l'application Radio France.